Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Alors, allô Houston, est-ce que vous m'entendez?
Je vous reçois 5 sur 5.
C'est parfait. Alors, pourquoi Houston? Eh bien, parce que c'est un peu le hasard. Il y aura deux films aujourd'hui qui vont traiter de Houston, deux films complètement différents. Et toi, tout d'abord, ce sera un film d'un grand réalisateur américain.
Oui, que j'affectionne particulièrement, c'est le dernier film de Richard Linklater, c'est Apollo 10 et demi, sous-titré Les fusées de mon enfance chez nous.
Et puis moi, c'est un documentaire de Nicolas Peduzzi qui s'appelle Ghost Song et qui montre eh bien, un autre aspect de Houston, pas celui qui envoie des navettes sur la Lune. Sinon, comme c'est un peu de coutume, dès qu'une personnalité s'en va, eh bien, nous essayons de faire un blind test autour de sa filmographie. Ce sera le cas avec celle de Jacques Perrin. Sinon, Marine a vu la dernière Caméra d'or du Festival de Cannes. Et puis, elle reviendra sur Pleasure. Quant à Manu, eh bien, c'est un tir groupé de 3 films. Le couteau par la lame, Ma famille afghane. Mais nous allons commencer avec Sentinelle Sud. De retour en France, le soldat Christian Lafayette tente de reprendre une vie normale. Mais le voilà mêlé à un trafic d'opium. C'est un film de Mathieu Géraud.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Monsieur Lafayette, vous êtes militaire?
Je rentre là.
Vous rentrez?
Afghanistan.
Christian, je sais que leur tour est difficile.
De retour du front afghan après une opération clandestine qui a éradiqué son unité, Christian essaie de reprendre une vie normale, mais le passé récent le rattrape et il se retrouve mêlé à un trafic d'opium pour sauver 2 de ses frères d'armes ayant survécu à la mission. Sentinelle Sud, un premier long métrage de Mathieu Géraud, peine à démarrer, engourdi par un récit filandreux qui a bien du mal à marquer son territoire, à choisir une voie claire entre la chronique sociale et politique et le film noir à l'ancienne sur fond de braquage, trahison, meurtre et fatalisme. Paradoxalement, c'est cette indécision qui le rend très intéressant, interstice où le film se révèle touchant, peut-être inefficace sur le plan dramaturgique, mais très incarné et souvent juste. L'efficacité à tout prix n'est pas toujours un gage de qualité.
Regarde-moi ce quartier de merde là, pire qu'avant qu'on soit parti, regarde-moi ça.
On est rentré vivant de là-bas.
C'est où que t'as vu qu'on était vivant?
Monsieur Lafayette, est-ce que des soldats ont pu se livrer à des trafics?
T'étais au courant?
Et tu me ramènes ce que je t'ai acheté.
C'est quoi, Mounir? Moi, je discute pas avec ces mecs.
Il est où l'argent?
Le réalisateur dessine des personnages consistants à compenser par Neil Schneider, parfait en militaire un peu perdu, revenu intact physiquement mais blessé par les événements. L'acteur prodigieux, curieusement rajeuni, vampirise l'écran par sa seule présence, massive et enfantine, puissante et fragile. Autour de ce personnage central, aux fêlures intériorisées, gravitent des figures fortes, de son compagnon de route Mounir, au gangster local imposant, sympathique et effrayant, en passant par le commandant interprété par un Denis Lavant impressionnant, mais bien plus sobre que d'habitude. Cette attention méticuleuse accordée au personnage évoque le cinéma de Ciné Lumette, référence explicite de la part de Mathieu Géraud. En revanche, il se montre moins à l'aise avec la seule présence féminine, endossée par l'excellente India Air, qui incarne donc Lucie, ergothérapeute qui peine à exister à l'écran, sinon comme contrepoint humaniste par rapport à un milieu d'hommes violent et immature.
Tu veux me dire où il est?
Oh, il est malade.
Si, il sait. Il joue au débulos pour pas répondre aux questions, c'est tout.
Va falloir que tu le surveilles, ton frère.
Henri, c'est mon pote. Tu comprends, ils y touchent pas.
Le parcours de Christian, somme toute classique, se réfère au film noir, mais prend un tournant assez atypique dans sa résolution singulière, éloignée de tout ce que l'on pouvait imaginer. Pour l'épilogue, aussi optimiste que surprenant, et la direction d'acteur très maîtrisée, Sentinelle Sud mérite le déplacement. Ce curieux scénario, hybride et très hybride et surprenant, aurait sans doute mérité une mise en scène moins fonctionnelle, très soignée, donc belle lumière, découpage filmique cohérent, toujours au service du récit, attentive aux acteurs. Elle ne propose cependant rien de très novateur, cherchant avant tout à retrouver une forme de classicisme proche du cinéma américain des années 70. Malgré cette limite, ce thriller rural, qui a la bonne idée de ne montrer aucune image de la guerre, préférant laisser l'imaginaire du spectateur travailler, se révèle une bonne surprise, portrait lucide de combattants tentant de retrouver une part de leur innocence perdue à la guerre.
Sentinelle Sud est en salle depuis le 27 avril. Caméra d'or lors du dernier festival de Cannes, Marine nous parle de Murena de Antonetta Alamat Kuzijanovic.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Julia est une adolescente croate qui vit sur une île isolée avec son père, un despote qui fleure bon le sel de mer et le patriarcat, et avec sa mère, ancienne reine de beauté qui s'accommode d'une servitude volontaire. Julia a un don pour la nage, la pêche sous-marine, au harpon et pour l'apnée, mais c'est dans sa propre existence qu'elle retient son souffle, enfermée sur cette île qui est à la fois paradis et enfer. Jusqu'au jour où revient un ancien ami de son père, devenu homme d'affaires, sa gentillesse et sa beauté subjuguent la jeune fille, mais aussi sa mère, dont on devine qu'elle l'a aimée il y a bien longtemps et qui sait peut-être peu de temps avant la naissance de Julia. À travers ce portrait d'adolescente sauvage, c'est un pays qui est dépeint avec ses traditions archaïques encore bien vivaces, avec l'opposition ville et village, le père de famille rêvant de s'installer à Zagreb, la capitale, une fois qu'il aura vendu son terrain à un riche entrepreneur, ce même père de famille qui incarne tout le machisme d'une certaine masculinité croate encore bien présent, un père que Julia n'aura de cesse de provoquer et d'affronter jusqu'à un duel final d'une intensité subjugante. Car malgré qu'elle traverse tout le film en maillot de bain avec une beauté insolente, Julia n'est pas une sirène, mais une murène, Murena en croate comme le titre, une créature aquatique insaisissable, à l'aise dans les profondeurs qui peut bien montrer les dents pour se défendre. La force du film, c'est l'ambiguïté qu'il installe entre ses personnages. Chaque protagoniste a plusieurs facettes et des intérêts en jeu dans ce quatuor sous tension qui se déroule dans une sorte de huis clos en plein soleil. Caméra d'or à Cannes cette année, Murena de Antonetta Alamat Kuzijanovic est aussi un film qui relève de nombreux défis techniques avec notamment beaucoup de scènes sous-marines et une direction d'acteur impressionnante pour cette jeune réalisatrice de 36 ans qui reviendra sans doute très vite confirmer son talent.
Murena est en salle depuis le 20 avril. On lui doit Scanner Darkly, la trilogie Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Nous allons maintenant parler de Richard Linklater avec Apollo 10 et demi, et c'est sur Netflix.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On a construit un module lunaire, un chouïa trop petit.
Comment vous avez fait ça ?
Dis, t'es bon en maths ?
Ouais.
T'as eu 20 sur 20 à tous tes contrôles ?
Non.
Et voilà !
On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a deux manières de fêter ou de subir la nostalgie. D'un côté, il y a celle qui phagocyte la culture populaire et qui fait tourner en rond la création culturelle depuis plus de 15 ans, celle qui a été érigée en mode de production et de divertissement avilissant et stérile, celle promulguée par Disney, Marvel et toutes ressuscitées ad nauseam de vieux héros du passé qui n'en peuvent plus de ressusciter à l'aide de multiples suites, remakes et reboots, alors que tout ce qu'ils souhaitent, c'est de mourir une bonne fois pour toutes de leur belle mort. De l'autre, il y a celle des auteurs qui, faisant justement honneur au terme d'auteur, reviennent sur ce qu'ils intéressent vraiment, ce sur quoi ils peuvent parler à travers un regard artistique pertinent et sur laquelle ils posent un regard à la fois attendri mais aussi plus distancié, celui de l'homme désormais mûr qu'ils sont. 2022, on a vu plusieurs pointer le bout de leur nez et, surprise, tous se sont révélés être des réussites. Il y a eu Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui a ouvert le bal en janvier, mais aussi Belfast de Kenneth Branagh, récemment salué aux Oscars. Autour de l'enfant prodige et du cinéma indépendant et du Texas, le génial Richard Linklater de livrer sa vision de son enfance et de l'Amérique de la fin des années 60 au début des années 70 avec Apollo 10 et demi, sur sous-titré « Les fusées de mon enfance » pour que le public comprenne bien qu'il s'agit d'un voyage à la fois dans le passé, mais aussi introspectif.
Mais il faut qu'on teste ce module légèrement trop petit sur la surface lunaire, sauf que pour ça, on a besoin d'un gamin comme toi.
Stan, tu es notre seul espoir.
Ok.
Apollo 10 et demi retrace l'histoire du premier voyage sur la Lune selon deux points de vue croisés. Le film raconte l'incroyable épopée de l'été 69, non seulement du côté des astronautes et du centre de contrôle de mission, mais aussi à travers les yeux d'un enfant qui vit à Houston, au Texas, et qui nourrit ses propres rêves intergalactiques. Alors, on le voit, le résumé officiel est assez laconique, mais on sait que c'est le cas de beaucoup de pitchs ou synopsis de ces films, et que l'intérêt se cache toujours entre ces fameuses quelques lignes courtes. Depuis ses débuts et Slacker, on sait que ce sont les non-dits, les petits riens, les tranches de vie et la banalité du quotidien qui deviennent chez Linklater de grandes aventures à travers le prisme de son regard humaniste et philosophique. À la manière de Bernardo Bertolucci et de son formidable Dreamers, innocent chez nous, Linklater explore de deux manières différentes l'époque révolue qui l'intéresse. Le premier regard qu'il appose est littéral. Nous suivons l'enfant héros du film, Stan, le dernier de six enfants, qui vit au premier degré l'effervescence de cette époque jusqu'à s'imaginer être recruté par la NASA pour servir de testeur du matériel qui va permettre de marcher sur la Lune en 1969. Bah, d'où le titre, avant Apollo 11, il y a la version réduite, celle vue au niveau d'enfant, et qui va se révéler être plus épique, rocambolesque et mouvementée que l'officielle, celle qui va être tellement préparée qu'elle sera réglée comme du papier à musique. Le second regard à poser est celui d'un homme mûr, que l'on ne verra jamais à l'écran, mais qui sera représenté par l'usage d'une voix off posée et calme. C'est d'autant plus amusant que cette voix est faite par Jack Black, grand complice de Linklater, et avec lequel il a fait les excellents Rock Academy et Bernie. Il compose un contrepoint apaisé et idéal à un passé que l'on pourrait idéaliser par nostalgie, mais qui avait bien évidemment aussi ses défauts une fois que l'on décide d'être honnête avec soi-même et que l'on regarde sans filtre en direction de nos plus jeunes et donc regrettées années. Pour ce faire, il utilise la technique déjà employée sur Waking Life et A Scanner Darkly, transformant le film en hybride entre animation et prise de vue réelle, brisant la rigidité de la captation classique. C'est bien sûr idéal pour ce genre de récit qui brouille les pistes entre histoire et souvenir. Et puis, bien sûr, il y a tout simplement le regard de Linklater sur Houston et sur le Texas. Lost in It continue, loin des clichés sur le sud des États-Unis, à parler d'une Amérique qui se construit et se cherche. Cette fois-ci, à Houston, qui fut au centre de la révolution technologique de la fin des années 60.
Apollo 10 et demi, ici Houston, tu nous reçois ?
5 sur 5, Houston, ici Apollo 10 et demi.
Paul Thomas Anderson et Kenneth Branagh avaient pu faire partager leur vision aux spectateurs sur grand écran, mais ce ne sera malheureusement pas le cas de Linklater. Alors, on peut dire que c'est pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur, car c'est sur Netflix et donc facilement accessible pour un spectateur qui ne serait d'habitude pas habitué au déplacement pour aller voir un film d'un cinéaste indépendant et labellisé auteur. Mais aussi pour le pire, car c'est plus facile de voir un film original atypique disparaître dans les algorithmes du système orwellien de la VOD qui ne vous recommandera pas forcément la chose suivant votre historique de navigation. Alors à la manière du jeune Stan, laissez-vous charmer par l'éclat des étoiles et partez braver ce que le cinéma a de plus touchant à nous offrir. Linklater mérite vraiment une connaissance plus grande dans notre pays, et ce curieux film à la croisée des chemins pourrait bien aider à briser des carcans et à perpétuer une certaine distribution sur notre sol.
Apollo 10 et demi, les fusées de mon enfance, est donc diffusé en ce moment sur Netflix. On reste à Houston avec Ghost Song.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Dans cette période où l'offre cinématographique se multiplie, les documentaires tiennent une bonne place. Ghost Song fait partie de ces objets filmiques singuliers qu'on aurait tort de bouder sur un écran, tant sa profondeur comme sa forme, mêlant son, image et cinématographique. Nicolas Peduzzi nous emmène donc à Houston, au Texas. Alors, il y était déjà allé quand il avait réalisé son précédent documentaire, Southern Belle. Alors, c'est peu dire qu'il est fasciné par le sud-américain. Là-bas, il a fait la connaissance de Will, un jeune américain blanc, SDF, opioman, et déshérité par sa famille, ainsi que de Blood Bath, une rappeuse lesbienne, ancienne chef de gang du Third Ward, le quartier historique de la ville où est né le mouvement musical porté par DJ Screw. Et de là est né aussi Ghost Song, rendant compte de ses deux vies et d'une troisième, un personnage plus marginal qui lui aussi est tombé dans la drogue après avoir mal vécu l'avortement de sa copine. Le documentaire s'intéresse à des drogués des marginaux, mais n'en fait pas un sujet sociologique. Le décor de Ghost Song, c'est Third Ward, un quartier donc central de la ville texane. C'est de là que vient Beyoncé, et c'est aussi le quartier de George Floyd, l'homme noir qui a été tué par un policier américain. Alors, c'est un quartier bouillonnant où la musique musique s'exprime. Et la musique, eh bien, est un des enjeux du film. Non seulement c'est le rap de Bloodbath, donc un des personnages dont on voit la carrière qui décolle peu à peu. Elle excelle dans le screw. C'est un hip-hop particulier venant de Houston qui est né de la consommation de codéine. Le flow des rappeurs est ralenti pour ressembler davantage à un freestyle style jazzy. Mais la musique, c'est aussi le blues de l'autre personnage, Will. Au mi-temps du documentaire, le réalisateur capte une scène incroyable entre le jeune homme et son oncle fortuné. Alors, il se balance les quatre vérités sur un air de blues et semble se réconcilier sur ce terrain-là. Les deux personnages ne peuvent pas se passer de la musique. Elle tient une place importante dans leur vie, mais cela n'empêche pas le réalisateur de placer aussi des morceaux de classiques comme pour souligner la tragédie qui est en jeu dans cette ville de Houston qui semble rejeter tout ce qui n'est pas la norme. Alors, pour rythmer son documentaire qui s'attache à la poésie du désespoir, Nicolas Peduzzi fait appel à l'ouragan qui menace. Tout du long du documentaire, on en perçoit des alertes, on en voit les stigmates jusqu'au déluge. À cette urgence, les personnages ne répondent pas forcément, ils sont dans un autre univers. Alors, formellement, le film manie un montage qui oscille entre prise de parole, musique et plan de cette ville qui semble tout droit sorti d'un écrit biblique comme celui de l'Apocalypse. Ghost Song est un documentaire vraiment à part, au sens où rien n'est vraiment balisé. Il faut se laisser porter par le récit qui oscille entre prise à vif et fiction. Ghost Song de Nicolas Peduzzi est en salle depuis le 27 avril. Jacques Perrin nous a quitté le 21 avril dernier après 75 années de carrière et plus de 100 films. Une riche carrière de producteur, c'est à lui qu'on doit Océane, Microcosmos ou Le Peuple Migrateur. Nous allons jouer maintenant à un blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Je rappelle la règle du jeu du blind test. Ce sont 5 extraits et il faut trouver les titres de films. Premier extrait.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore. De Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix.
C'est trouvé.
C'est Les Demoiselles de Rochefort.
Oui.
De Jacques Demy.
Oui. Tout à fait. Film de 67 avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, les deux sœurs jumelles, en vedette dans une comédie musicale composée par Michel Legrand. 1,3 million d'entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Jacques Perrin.
Vous avez couvert Marseille de laboratoire. Vous venez faire pareil en Sicile. Vous travaillez avec l'argent de la mafia. Avec l'argent du crime.
Je proteste, vous pouvez...
Asseyez-vous, je n'ai pas fini.
Je vous en prie.
Protesterai en bloc. Depuis 3 ans, vous avez raffiné au moins 150 kilos d'héroïne. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire des millions de doses. Ça veut dire des centaines de milliers d'intoxiqués, des familles détruites, des existences gâchées, des jeunes qui crèvent, ou pire que ça. Docteur, vous, docteur, je vais vous inculper. On vous jugera en France, à Marseille, et vous en prendrez pour 20 ans. Je m'en charge.
Vous ne pouvez rien prouver, vous n'avez aucune preuve.
Ça n'a pas été trouvé dans les studios, peut-être que ceux qui sont incollables sur Jacques Perrin auront trouvé. Le film est inspiré de la lutte du juge Michel contre la French Connection. Il n'a pas vraiment bien marché en salle. J'ai même pas trouvé le box-office pour ce film. C'est Le Juge de Philippe Lefebvre, sorti en 1984. Troisième extrait de ce blind test.
Sonne la charge, ça les excitera.
J'ai pas appris.
Sonne n'importe quoi, quelque chose de gay. Le branle-bas. Vous pouvez pas trouver autre chose, non ?
C'est plus gai que l'appel des consignés.
T'as raison.
Je peux vous faire un pot pourri si vous aimez mieux.
Ouais. Vas-y. T'es super. Enfin, pas exagérer, c'est pas mal.
C'est trouvé, Guillaume.
C'est Le Crabe Tambour de Pierre Schoendorfer.
Oui, film sorti en 77, adapté de son roman homonyme, publié un an plus tôt. Un commandant, un homme malade, qui se sait condamné par un cancer, veut voir avant de mourir Wilsdorf, un ancien compagnon d'armes des guerres d'Indochine et d'Algérie qui y croise au large de Terre-Neuve. Et cet homme, c'est Jacques Perrin. 1,2 million d'entrées en France. quatrième extrait de ce blind test consacré à Jacques Perrin.
Il y a des jours, ce boulot me fout tellement la gerbe que j'ai envie d'aller te retrouver là-bas, dans ta carte postale. 10 fois, j'ai failli t'écrire. Salut, c'est Stéphane. J'arrive.
Mais rien ne t'en empêche, Steph. Rien. Tu viens quand tu veux, la porte est grande ouverte.
Alors, il fallait reconnaître Alain Delon, qui donnait la réplique à Jacques Perrin. C'est un film de 1985 de José...
C'est un flic, c'est ça pas... L'histoire alors, de flic.
Oui,
je sais plus.
Oui, il y avait un autre extrait où il disait le titre à tout bout de champ, c'est « Paroles de flic ». Donc de José Pinheiro, Daniel Pratt, policier à la retraite, coule des jours tranquilles en Afrique lorsqu'il apprend le meurtre de sa fille et de retour à Lyon. Et bien Pratt tente de mettre la main sur ses assassins avec l'aide du commissaire René, mais devient à son tour la cible de malfrats. 2,5 millions d'entrées en France. On achève ce blind test spécial Jacques Perrin avec le cinquième extrait.
La Ségur a demandé après vous. La Clève a voyagé 4 jours pour venir vous voir. Elle vous réclame toutes, à corps et à cri. Je n'ai que faire de ces péronnelles. Je ne veux voir que cette fille. Je veux l'épouser, il me la faut. Mais je vous assure que c'est une souillon. Et moi, je vous assure que c'est une beauté. Votre absence à la cour suscite déjà les bavardages les plus extravagants, mais si vous vous avisez de dire que vous voulez épouser une souillon, on vous enfermera.
Tu as raison. Mais il faut que je trouve un moyen pour la revoir. Et tant que je n'aurai pas trouvé ce moyen, je ne sortirai pas de cette chambre. Je resterai au lit et malade.
C'est Podane de Jacques Demy aussi.
Et oui, nous avons commencé avec Jacques Demy et nous clôturons avec Jacques Demy, film sorti en 1970 avec, une nouvelle fois, Catherine Deneuve, 2,2 millions d'entrées en France. Deuxième dessin animé de cette émission, le regard d'une femme européenne sur sa nouvelle famille afghane, c'est ma famille afghane.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
D'un sujet épineux, Mikaela Pavlatova parvient subtilement à contourner un double écueil. Le premier, celui de poser un regard occidental, très ethnocentré sur la société afghane. Et le second, de verser démagogiquement dans un multiculturalisme simpliste, promouvant la relativité des cultures et coutumes. Alors, ma famille afghane est un miracle d'équilibre qui s'extirpe de ces deux pièges par la finesse du traitement, laissant suffisamment d'espace au spectateur. En adaptant fidèlement le roman, en partie autobiographique de Petra Prochaskova, Freshta, la cinéaste réalise un film d'animation émouvant qui ne cède jamais à la facilité. Alors, Hera, une jeune femme tchèque, quitte son pays pour suivre par amour celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle renonce à sa culture pour intégrer sa nouvelle famille afghane. Devant faire face aux nombreuses difficultés rencontrées en tant que femme dans un pays officieusement dirigé par les talibans malgré leur chute en 2001, elle accepte les privations de liberté pour vivre cachée à l'ombre de son mari, obéissant aux règles imposées par la religion tout en gardant son esprit critique. Mais son existence prend un tournant lorsqu'elle adopte Maad, un orphelin atteint d'une maladie incurable qui deviendra son fils. Que ceux qui n'ont ont encore en mémoire l'effroyable pamphlet raciste sous couvert de féminisme « Jamais sans ma fille » se rassure, ma famille afghane ne tombe pas à pieds joints dans la dénonciation facile du régime des talibans. Pourtant, un pas de doute sur la position idéologique de la réalisatrice, condamnant un système religieux et politique qui justifie les violences infligées aux femmes et leur tout droit élémentaire, les plaçant donc dans une position de soumission constante. Il leur est interdit de s'adresser à un homme en présence ou même absence de leur mari. Leur place n'est possible qu'à l'intérieur de la cellule familiale, havre préservé, où elles ont la possibilité de s'exprimer et parfois d'agir en toute liberté. La réalisatrice tchèque, fidèle à l'esprit du roman, dévoile une galerie de personnages attachants, jamais enfermés dans des stéréotypes faciles. Notamment Nadir, le mari, prisonnier de son éducation, se révèle tour à tour aimant et intransigeant, ouvert et fermé, compréhensif et intolérant. L'ambivalence de son comportement l'humanise et déjoue les idées reçues. Il y a aussi la figure du grand-père, sage et lucide, le beau-frère agressif, la fille de ce dernier qui aspire à l'épanouissement et sa femme soumise. Alors tout un système est pointé du doigt sans esprit revanchard, sans ce regard supérieur qu'une Européenne pourrait nous infliger. L'indignation est contrebalancée par l'humanisme que porte Pavlatova hein, sur ses personnages, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. En l'occurrence, cet étrange garçon, chauve au regard triste, hein, Maad, à qui le film doit son titre original. Cette empathie se diffuse par la douceur du graphisme et les couleurs au ton pastel, harmonieusement mises en valeur par un montage fluide. On a parfois la sensation de feuilleter un roman graphique dans lequel on prendrait le temps d'observer les décors, les cadrages des vignettes et la finesse du dessin. Drame intimiste à la portée universelle, Ma famille afghane, outre ses qualités plastiques, passionne par la souplesse et l'efficacité de la narration qui n'appuie rien, suggère davantage grâce à son sens de l'ellipse plus qu'elle ne démontre. Séduisant et révoltant, solaire et sombre, le film jongle constamment avec des émotions contraires mais qui le rend plus complexe que sa jolie facture ne le laisse supposer.
Ma famille afghane est en salle depuis le 27 avril. Le film avait fait parler de lui lors de sa sortie en salle. On en reparle lors de sa sortie en VOD. C'est Pleasure de Ninja Fieberg.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Vous venez pour le travail ou pour le plaisir ? Demande le policier, comme le veut la formalité, à Bella lorsqu'elle arrive à l'aéroport de Los Angeles. Pour le plaisir, répond-elle après hésitation. Et en effet, Bella arrive de sa Suède natale pour devenir actrice de films pornographiques. Un parcours qu'elle va tracer avec détermination au risque de perdre son âme dans ce premier film de Ninja Tayberg qui explore le monde du X. So
egotistic. Nobody touches my baby girls like that. That's really fucked up. Put your ankle missing. I'm finna sit here with a check ballistic. We don't waste time,
we just make decision. Try to tell them all, but they can't just listen. Alors, on peut reprocher à Pleasure, qui a tout dans sa forme du film californien indé, de rester un petit peu superficiel, hein, comme si le film nous maintenait, nous spectateurs, en position de voyeur. On ne comprendra jamais vraiment ce qu'il se passe dans la tête de Bella. Il y a beaucoup de sujets également qui ne sont pas explorés dans Pleasure, film qui pourtant, dans sa mise en scène, colle littéralement au talon aiguille de son actrice. On ne parlera jamais de drogue, de mal-être ou d'argent. Mais on peut également réexaminer Pleasure à l'aune du féminisme moderne et constater que le film, pour le coup, promeut la liberté des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent, et ce, de façon même assez radicale. Dans Pleasure, on ne tentera jamais d'expliquer pourquoi les gens se décident à faire du porno, on ne cherchera jamais d'excuses ou d'explications, et surtout, hormis une difficile scène de viol, Bella n'est jamais contrainte, mais totalement volontaire pour aller de plus en plus loin et gravir les échelons de cette industrie. Contre toute attente, le film semble être une sorte de manuel de survie féministe pour réussir dans le porno. En creux, il y est conseillé de tourner avec des réalisatrices, de gérer sa propre image grâce aux réseaux sociaux, de s'entraîner comme une athlète pour repousser ses propres limites et de s'entourer d'une bande de copines dans le même bateau que vous pour plus d'entraide. Également, le film réalisé par une femme est un bel exemple de female gaze, puisqu'au final, on verra davantage de nudité masculine que féminine, la caméra se focalisant sur le visage et les mimiques très sexuelles de son actrice plutôt que sur son corps, ce qui finalement est bien plus explicite. On regrette peut-être une certaine glamourisation avec des passages au ralenti qui vous feraient presque passer le porno pour un art élégant, alors qu'une certaine crudité dans la mise en scène aurait été plus appropriée. La partie du film nous offre également des relents de Showgirls, le film de Verhoeven, ce qui confirme un petit peu ce côté complaisant. Pleasure, au final, est un film intéressant, nuancé, pas parfait, mais dont l'existence, malgré tout, fait du bien au cinéma actuel.
Pleasure est disponible en VOD. Thriller d'espionnage sur fond d'histoire d'amour, Le couteau par la lame est actuellement diffusé sur Prime Video.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Attention, un véritable thriller d'espionnage casse-tête. Le couteau par la lame, hein, à défaut de révolutionner le genre, a au moins le mérite de dérouler un scénario complexe qui demande quand même beaucoup d'attention et donc ne prend pas les spectateurs pour des imbéciles. En témoignent ces incessants retours entre passé et présent, pas toujours évident à démêler car le cinéaste assez confiant ne différencie pas ses axes temporels par des changements de style. Alors l'histoire est difficilement résumable en trois lignes, mais bon, on va essayer. Hein. En 2012, en Autriche, des terroristes islamistes prennent un avion en otage. La négociation entamée par la CIA tourne au fiasco. Résultat, une centaine de morts. 8 ans plus tard, une source des services secrets révèle qu'une taupe au sein de l'institution porte la responsabilité de ce terrible échec. Henri Pelham, agent de la CIA, présent au moment du drame, est engagé pour confondre et éliminer le traître. Parmi les suspects potentiels figure son ex, Celia Harrison. Alors un jeu retors du chat et de la souris débute dès lors que les deux amants se revoient dans un restaurant chic. Janus Met Pedersen, à qui l'on doit le plutôt réussi Bjorg McEnroe, s'en tire avec les honneurs grâce à la subtilité du scénario qui n'a pas recours, hein, une fois n'est pas coutume, à l'éternel patriotisme. Au contraire, un parfum pesant de mélancolie et de noirceur contamine le film jusqu'au twist final. Le couteau par la lame doit aussi beaucoup à ses interprètes, hein, Chris Pine convaincant, mais surtout à Sandy Wee Newton qui, plus de 20 ans après Mission Impossible 2, n'a rien perdu de son charme. Mieux, elle se révèle une bien meilleure actrice qu'à ses débuts. La mise en scène, hein, purement fonctionnelle, ne s'élève guère au-dessus d'un téléfilm de luxe, malgré sa photographie très soignée, mais elle ne parvient pas à gâcher le plaisir à visionner ce très estimable divertissement plus consistant que la moyenne, même si assez calibré pour les plateformes.
Le couteau par la lame est actuellement sur Prime Video.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine avec pour l'instant un sommaire encore indéterminé, mais il y aura au moins Anatomy of Time et Babysitter. À la semaine prochaine.